Chapitre 4 L'instigateur du complot. Peu de gens savent l'influence qu'avait le prince Serganov pendant les jours qui précédèrent la révolution russe. D'un geste, il pouvait faire disparaître des centaines d'hommes et de femmes. Un signe de lui et mille flatteurs accouraient à ses pieds. Cet homme était un tissu de contradictions. Raffiné dans son élégance, il achetait ses chaussettes à Paris, ses souliers à Vienne, ses cravates à New York, et le racontait qu'il avait fait le voyage de Londres pour choisir lui-même des valises à son goût. Brun au teint pâle, avec des moustaches fines, un silhouette mince, toute la personne donnait une impression de jeunesse et d'insouciance. Son appartement, situé dans la Morskaya, était une merveille de confort et de luxe. Dans cet intérieur, meublé et orné à sa fantaisie, le jeune prince, ayant réquisitionné la science moderne à son service, en avait si habilement déguisé l'application qu'il eût été impossible de deviner par quel extraordinaire mécanisme marchait la vieille horloge anglaise du hall, ou par quel moyen, non moins étrange, une douce lumière était diffusée à profusion dans la grande salle, en dehors du magnifique lustre à 100 bougies. Malheureusement, ce gentleman au goût délicat et cet amateur de bibelots et de jolis chiens, qui n'hésitait pas à payer 1000 roubles une légère opération faite à son lévrier favori, pouvait être à ces heures d'une incroyable cruauté. Lui qui frissonnait et s'enveloppait de fourrure au premier souffle d'octobre, envoyait en Sibérie nombre d'hommes et de femmes sans en éprouver la moindre émotion. Personnellement craintif devant la souffrance, au point que les honoraires de ses rendez-vous de dentiste marquaient faute de courage. Personnellement craintif devant la souffrance, au point que les honoraires de ses rendez-vous de dentiste manquaient faute de courage, eussent entretenu une famille aisée pendant 12 mois, il regardait souffrir les autres avec une indifférence absolue. Il pendit de ses propres mains l'assassin Palatov. On le vit pâlir, il est vrai, au cours de l'opération, mais on découvrit par la suite la véritable cause de ce trouble. Le condamné, ayant le plastron de sa grossière chemise attaché avec une épingle de sûreté, l'épingle s'était ouverte et avait fait une égratignure au doigt du bourreau amateur. Le prince était, ce soir-là, assis devant la haute glace de sa chambre à coucher et contemplait pensivement son image. N'était-ce pas celle du seul homme auquel il pût se fier? Il semblait converser avec le beau jeune homme reflété par la glace, et au bout d'un moment, il fit un petit signe de tête comme pour conclure un entretien. Il sonna, un valet de chambre parut. « Le grand-duc est-il sorti ? » demanda-t-il. « Oui, Excellence. »« Et la grande-duchesse ? » ?»« Sortie également, Excellence. »« Bien. Son Excellence est-elle guérie de sa migraine ?»« Presque. Allez à l'appartement de leurs altesses et dites à leur domestique, comment s'appelle-t-il ? » ?»« Bulba, Excellence. » Oui, oui, c'est bien celui-là. Dites à Bulba de venir me parler. J'ai une communication à lui faire de la part du grand-duc. » Un moment après, Bulba fut introduit. La somptueuse livrée que portait le maître d'hôtel à Kiev était remplacée par un simple habit noir. « Laissez-nous, » dit Serganov au valet de chambre. « Bulba, viens ici. » Et lorsqu'ils furent seuls, baissant la voix, « Tu vas jouer un sale tour, gredin. » « Mais excellence, » protesta l'homme avec énergie, « j'ai fait tout ce qui m'était possible. Mais tu as mis ma vie et ma fortune entre les mains d'un bandit américain. Si c'est ça que tu appelles faire tout ce qui était possible, prends garde, deux plus grands personnages que toi ont disparu de la circulation. » Illustre Excellence, reprit le domestique très agité, je vous jure que j'ai accompli vos ordres de mon mieux. Il y avait plusieurs raisons pour que je ne confie pas l'affaire à la société secrète. La première, Excellence, est que le grand-duc est bien vu de ce groupement. Il n'a jamais opprimé les humbles. C'est le seul membre de la maison impériale qui soit populaire dans notre... enfin, dans la société. Dans notre société. Remarqua Serganov en ricanant. Allez, continue. En outre, Excellence, il était nécessaire non seulement d'assassiner le grand-duc, mais de supprimer son assassin. Notre plan était de faire tuer le grand-duc par l'Américain pendant la promenade matinale de son Altesse dans le parc. Ensuite, de faire tuer l'Américain par un des membres de la société. C'était certainement une bonne idée, car nous nous assurions de cette manière le silence du meurtrier et l'impunité de son assassin, dont l'acte aurait été vu avec indulgence par le gouvernement. Mais ce fameux plan a échoué misérablement, chien que tu es! Il sauta sur ses pieds, les yeux étincelants, et Bulba fit un pas en arrière. Attendez, Excellence, j'ai en tête un autre projet. Si j'en avais su davantage, j'aurais été plus utile à votre Altesse. Jusqu'à présent, j'ai tâtonné. Alors, tu t'imagines que je vais te mettre dans mes confidences. Mais tu me crois fou. Dis-moi ce que tu as deviné. Allons, assieds-toi. Bulba essuya son front moite. J'ai pensé, dit-il plus bas, que si le grand-duc meurt, l'illustre seigneur qui héritera de ses états n'héritera pas de son titre. Serganov lui jeta un regard perçant. Cet homme venait d'exprimer une difficulté que depuis des mois il cherchait à résoudre. « Eh bien, puisque l'illustre seigneur n'est pas héritier direct, le tsar seul peut lui conférer le droit de porter le titre. Par conséquent, l'assassinat de Yaroslav ne suffira pas. Une chose peut se produire, pourtant, c'est que le grand-duc tombe en disgrâce et que sa majesté impériale donne le titre à un personnage plus digne de le porter. Mais je sais tout ça, et après ? Eh bien, Altesse, ne serait-il pas opportun que le grand-duc fût rappelé à Saint-Pétersbourg pour répondre à certaines accusations formulées par un illustre seigneur ? Quelque temps après, Yaroslav peut mourir, c'est bien facile. La Russie croira qu'il a été assassiné par le parti de la cour, où il n'est pas très en faveur en ce moment. Serganov secoua la tête. Bon, il est encore trop malheureusement. Allez, continue, drôle, tu as une idée derrière la tête. Bulba se pencha davantage encore vers le prince. Supposez que le grand-duc ou la grande-duchesse soit mêlé à quelque complot contre la maison impériale, et que le fait soit contrôlé par un témoignage incontestable tel que celui de la police de Londres. Supposez que le grand-duc ou la grande-duchesse soit affilié à une société secrète ou prenne part à un meeting d'anarchistes. Votre Altesse voit-elle où je veux en venir ?
Je le vois, mais ils ne vont pas dans les meetings. « Anarchiste, imbécile.
Ils n'y ont pas été jusqu'à présent, Altesse, mais je me fais fort d'attirer la grande-duchesse dans une de ces réunions, et je m'arrangerai pour que la police fasse une rafle ce soir-là. »
Serganov posa le stick qu'il serrait dans sa main depuis quelques minutes.
« Tu as de l'esprit, Bulba. Un de ces jours, je t'amènerai à Saint-Pétersbourg. » Et je te donnerai une place dans mon personnel, à moins que tu n'en saches trop long. » Il se mit à arpenter la pièce, les mains croisées derrière le dos, et reprit. « Si tu rencontres de nouveau l'Américain, amène-le au meeting et offre-lui hardiment de partir pour Saint-Pétersbourg, afin d'attenter à la vie du tsar. Oh, il refusera, Excellence.
Qu'il refuse ou non, ça n'a aucune importance, dit le prince impatiemment. Il suffit que la proposition lui ait été faite.
Du moment que la grande-duchesse aura été surprise au milieu de ces canailles conspirant contre la vie du tsar, elle sera immédiatement arrêtée.
Oh, Altesse, quelle idée merveilleuse! S'écria Bulba, les yeux brillants.
Tcherganov continua à marcher de long en large, puis soudain.
Je vais préparer cette descente de police. C'est facile, car je suis en rapport avec Scotland Yard. Il vaut mieux que je sois présent là-bas, moi aussi, puisque je dois jouer un rôle dans l'affaire.
Mais comment vas-tu obtenir la venue de la grande-duchesse?
Ayez confiance, Altesse. Mon plan est fait.
Chapitre 5. Une rafle au Silver Lion. Sophia Kensky était une loyale et fidèle adhérente à la cause, et son rapport écrit en mystérieux caractères russes intéressa grandement le maître d'hôtel du duc Yaroslav. Il apprit ainsi la visite faite par la grande-duchesse Irène à Israël Kensky en présence d'un jeune Anglais inconnu qui l'accompagna jusqu'à sa voiture. Un peu plus tard, Bulba découvrit que cet étranger avait été chargé par le Juif d'une mission spéciale. Mission facile en réalité, qui consistait à trouver l'adresse du Silver Line, c'est pourquoi Malcolm Hay n'eut qu'à ouvrir un annuaire de téléphone. Malcolm s'empressa de se rendre à ce restaurant et y déjeuna sans lui trouver rien d'anormal. La clientèle se composait manifestement d'étrangers, surtout de Russes. Au moment de sortir, feignant de se tromper de chemin, il alla rôder du côté de la porte de service et découvrit deux choses importantes. La cuisine était de plein pied avec la salle à manger et un monte-plat, communiquant avec le sous-sol, ravitaillait évidemment d'invisibles convives. Ayant fait cette constatation rapide, il se retira en s'excusant. Comme il n'y avait pas trace d'escalier dans la salle, M. Hay poursuivit ses investigations à l'extérieur. Certains détails d'architecture lui révélèrent l'existence d'un sous-sol, et sa reconnaissance des lieux l'amena très vite à la petite porte que Sophia Kensky, dans un sommeil hypnotique, avait décrit à son père. Il fit le guet et, au bout de quelques instants, fit sortir successivement plusieurs groupes d'hommes. Le local souterrain pouvait, il est vrai, servir de siège à un club inoffensif, et pour s'en assurer, le jeune homme poussa son enquête jusqu'au poste de police de Marlborough Street. Là, il apprit que le club était en effet enregistré sous le nom de Club des Amis de la Liberté. « Avez-vous quelques plaintes à formuler à son sujet ?» lui demanda le fonctionnaire.
« Oh, absolument aucune, répondit-il. »
Et prenant le premier prétexte venu pour expliquer sa démarche,
« Je suis en train d'écrire un article sur les clubs étrangers à Londres et désirais connaître le nom de celui-là. »
Il rentra à l'hôtel pour s'occuper de ses préparatifs de voyage, regrettant de ne pouvoir remettre son départ pour le faire coïncider avec celui de la grande-duchesse. Mais sa place était déjà retenue et il devait s'arrêter à Vienne en cours de route. Avant la fin de la journée, Malcolm retourna cependant chez Kensky afin de lui rendre compte du résultat de ses recherches. Sa fille, qu'il voyait pour la première fois, lui parut d'une beauté un peu lourde. Elle le dévisagea avec indifférence.
« L'hospodar part pour Kiev, Sophia, » dit Israël en présentant son visiteur.
« Et qu'est-ce qu'il y fera ?» demanda insolemment la jeune femme.
Non, je ne résisterai pas à Kiev même, dit Malcolm en souriant. Les puits de pétrole dont je vais prendre la direction sont situés à 20 verstes de la ville. Mais c'est bien pénible d'habiter la campagne. Après l'échange de quelques banalités, Sophia fut sans cérémonie renvoyée par son père. Le juif écouta avec un vif intérêt le récit de Malcolm. Il étendit devant lui un plan de Londres, marqua d'une croix rouge l'emplacement du Silver Line, puis resta pensif, caressant sa longue barbe. « Mais ils ont encore 2 jours à passer à Londres, murmura-t-il, comme se parlant à lui-même, mais ce sont les journées les plus dangereuses. » Et levant les yeux vers le jeune homme, « Vous qui êtes intelligent et qui habitez Londres, aidez-moi à sauver une jeune existence de la misère et de la douleur. Mais qui voulez-vous sauver ?»« La grande duchesse, répondit tristement Kensky. C'est pour elle que je tremble, plus encore que pour son père. » Malcolm fut sur le point de crier qu'il ferait tout au monde pour épargner une larme à cette merveilleuse créature. Mais il ne murmura prudemment que quelques banales protestations de bonne volonté. « C'est dans ce club qu'est le danger, Master High, » repris-je Israël. « Oh, je connais ces sociétés, et je redoute en plus qu'elles paraissent plus innocentes. »« Mais vous ne faites pas intervenir la police ?» hasarda le jeune Anglais. « Non, non, » répondit le Juif, « c'est pas l'affaire de la police, mais de ceux qui aiment la grande duchesse. » Malcolm crut avoir trahi le secret de son cœur et très gêné, car à cet âge, l'amour ne redoute rien tant que le ridicule. Il se hâta de dire, « Mais que puis-je faire ? » ?»« Vous pourriez surveiller la maison où siège le club et vous tenir à proximité. » »« Je l'aurais fait moi-même, si j'étais pas si vieux. » Eh bien, comptez sur moi. Notez qui entre et qui sort, que votre vigilance sera dans ce dispens. Tenez-vous toujours prêt à porter secours si on vous appelle. Vous verrez ma fille là-bas, reprit le vieillard après une pause, et un faible sourire entr'ouvrit ses lèvres pâles. Oui, Sophia Kensky est une conspiratrice.
« Que verrai-je encore ?» demanda brusquement Malcolm. Kensky se leva, alla ouvrir une valise de cuir qui était posée sur le buffet et tira d'une liasse de papier une photo qu'il tendit au jeune homme. « Quoi ?» s'écria celui-ci avec surprise. « Mais c'est Serganov, le jeune prince !» Kensky inclina lentement la tête.
« Voudrais bien savoir s'il se rendra au club pendant ces 2 jours. Ceci est très important. »«
Alors il n'y a que lui à reconnaître. » Israël hésita.
« Mais j'espère que oui. »
Malcolm retourna chez lui, plein de résolution et d'enthousiasme. En quelques heures, il s'était écoulé tant d'événements imprévus. Lui, jeune étudiant modeste, se trouvait soudain plongé au cœur d'un complot anarchiste et autorisé à saluer une altesse royale. Il avait assez de bon sens pour se rendre compte qu'on ne s'amourache des ravissantes princesses que dans les contes de fées. Mais ce raisonnement lui laissa une impression désagréable. Le même soir, sa faction derrière le Silver Lion fut aussi monotone que possible. Les habitués du club avaient dû arriver plus tôt que de coutume, car Malcolm ne vit entrer personne. Il tombait une pluie fine qui le pénétrait de toutes parts. Un coup de vent le glaça jusqu'aux moelles. Mouillé et transi, il continua cependant sa faction, caché dans l'ombre et scrutant soigneusement les alentours de la petite porte.
Cette station prolongée attira l'attention d'un agent de police qui passa et repassa devant lui et finalement s'arrêta pour lui demander s'il attendait quelqu'un. Quand minuit sonna, l'église voisine, la petite porte s'ouvrit doucement et plusieurs hommes en sortirent. Malcolm marcha dans leur direction de façon à les croiser d'assez près. Ils étaient une vingtaine et parlaient russe, mais leur conversation n'avait rien que d'innocent. Les ayant dépassés, il s'arrêta, entendit qu'on verrouillait la porte en mettant des chaînes à l'intérieur, et rentra à l'hôtel, déplorant sa soirée perdue. L'après-midi suivant, Master Hay était en train de terminer ses bagages et ajoutant quelques objets achetés à Londres, parmi lesquels se trouvait un charmant petit revolver Colt. Au moment de l'emballer, il hésita, balançant dans sa main, et se demandant s'il ne serait pas préférable de le garder à sa disposition jusqu'à la fin de la journée. Finalement, il glissa l'arme dans sa poche de son pantalon, tout en se traitant de poltron et de romanesque. Ce deuxième soir, en partant pour le Silver Lion, Malcolm se sentait un peu ridicule. Il décida de monter la garde sur le trottoir même de la petite porte, et sa persévérance, cette fois, ne fut pas vaine. Une demi-heure ne s'était pas écoulée que deux hommes débouchèrent dans la rue. Ils marchaient rapidement venant dans sa direction et le frôlèrent de si près qu'il n'eut aucune peine à identifier le plus petit des deux. Son accent aurait du reste suffi à le trahir. « Moi, disait-il, je ne suis pas un type à crever de faim au milieu d'un magasin de vivres. » Malcolm, stupéfait, reconnut le bavard de Charing Cross. D'autres individus suivirent cela et franchirent également la mystérieuse petite porte. Puis se vit un homme à la démarche élégante et d'allure militaire, emmitouflé jusqu'au menton. Au moment où il passait auprès de lui, Malcolm rencontra le regard de ses yeux noirs perçants dans une face olivâtre. C'était le colonel Prince Serganov. Enfin, quelques minutes plus tard, une jeune fille s'approcha d'un pas si léger que Malcolm n'eut que le temps de se détourner au moment où elle entrait dans la maison. La grande duchesse, mais Serganov, l'aventurier américain, mais qu'avaient de commun ces trois personnages? L'avertissement de Kensky lui revenant soudain à l'esprit, il s'élança vers la sonnette, mais une seconde réflexion lui fit comprendre la folie de son geste. Il n'y avait qu'une seule chose à faire, attendre. Au bout d'une dizaine de minutes, le jeune homme s'aperçut que la rue, déserte jusqu'alors, s'animait de façon anormale. À chacune de ses extrémités, une douzaine d'hommes venaient d'apparaître et s'avançaient silencieusement, comme s'ils voulaient embarrer le passage. Dans un éclair, il reconnut les préparatifs d'une descente de police. Au cours de sa vie d'étudiant, il avait assisté à une opération de ce genre dans une maison de jeu. Sa première pensée fut pour Irène Yaroslav, et d'un bond, il atteignit la porte. Trop tard. Quelqu'un y avait précédé et une main robuste le repoussa violemment. « Emparez-vous de cet homme, sergent !» dit une voix autoritaire. Il se sentit empoigné par l'épaule et dévisagé avec insistance. « Tiens, c'est un Anglais !» « Oui, oui !» s'empressa de dire Malcolm. « Excusez-moi d'intervenir, mais il y a dans cette maison une dame qui ne doit paraître pas être suspectée. Vous allez faire une rafle, n'est-ce pas ?»« Ben, ça m'en a tout l'air !» répondit jovialement l'agent civil. Et d'un ton soupçonneux, il ajouta « Mais qui êtes-vous d'abord ?»
Masseray déclina ses noms et qualités.
« Eh bien, si la dame que vous connaissez est mêlée à cette affaire, vous n'avez qu'à rester dans les environs. Elle aura peut-être besoin de vous pour témoigner en sa faveur. »
Chapitre 6 Guet-apens.
Mr. Cherubim, citoyen du monde, avait l'optimisme des grands aventuriers. Il professait aussi un souverain mépris pour certaines races, non qu'il eût beaucoup voyagé, mais son contact avec quelques-uns de leurs représentants en Amérique avait suffi à former son opinion. De sorte que le nommé Yakov, choisi pour essayer d'entraîner une seconde fois le gangster au club des Amis de la Liberté, fut tout étonné de trouver chez lui peu de résistance. La vérité est que M. Min éprouvait le plus profond dédain pour tous les Russes. Yakov lui affirma avec chaleur qu'il n'avait absolument rien à craindre de leur part.
« Je pense bien, répondit-il moqueur. Vous croyez que c'est cela qui m'inquiète ? Non, monsieur, mais je n'aime pas me fourvoyer avec des gens au-dessous de ma condition. »
Alors Yakov le pria avec un grand sérieux de bien vouloir honorer l'assemblée de sa présence, ajoutant que cet honneur serait financièrement reconnu. L'argument était d'un de ceux que l'Américain pouvait le mieux comprendre et apprécier. Il accepta sur le champ et suivit Yakov dans la salle étouffante du sous-sol. Les 100 livres qu'on lui avait promises pour quelques renseignements sont toujours bonnes à gagner, et Cherubim n'aspirait qu'à les avoir pour secouer de ses souliers la boule d'Angleterre et aller chercher fortune ailleurs. La première chose qu'il remarqua en arrivant fut l'absent de Bulba, le chef, que remplaçait un petit homme pâle à barbe noire hirsute. La seconde fut le silence plein de menaces qui accueillit son entrée. L'homme brun s'appelait Nicolas et s'exprimait parfaitement en franglais. Il désigna un siège de sa gauche en disant
« Assieds-toi, camarade. Nous t'avons demandé de venir pour te faire une autre proposition. »
« Master Bean, continua Nicolas d'une voix singulièrement monotone, « cela ne vous fait-il pas bouiller le sang de voir les tyrans gouverner le monde ?»«
Oh, la barbe !» m'interrompit le gangster. « Rien ne m'a jamais fait bouillir le sang. Je croyais être ici dans un pays de liberté, où le seul tyran à craindre était l'agent qui vous force à circuler. Oh, puisque vous recommencez avec vos histoires, je m'en vais. Ça ne m'intéresse pas du tout. »
Il fit mine de sortir, mais Nicolas le retint en disant, toujours calme,
« Même s'il s'agissait du tsar ?»
L'autre resta bouche bée.
« Le tsar ? » répéta-t-il en faisant une affreuse grimace. « Qu'est-ce que vous lui voulez ?
Est-ce que vous chargeriez de le tuer pour 200 livres ?» Cherubim repoussa son chapeau un peu plus en arrière sur sa tête, se leva et avec un grand geste de protestation.
« Non, ça ne colle pas, déclara-t-il. C'est tout ce que je peux vous dire. »
Mais au lieu de s'en aller, il resta sur place, figé par l'apparition de Serganov, qui venait d'entrer, le visage entièrement couvert d'un masque de soie noire. Le prince referma la porte derrière lui, s'avança légèrement vers la table.
« Depuis 50 ans que je fréquente des cambrioleurs, » dit Bim avec conviction, « je n'ai jamais rencontré quelqu'un ayant une aussi sale tête que ce particulier. Dites donc, monsieur, « laissez-nous jeter un coup d'œil sur votre figure, s'il vous plaît. »«
Impossible, » répondit celui-ci. « Du reste, cela ne vous servirait à rien, car selon toutes les probabilités,
vous n'aurez pas d'autre occasion de me voir. Mais selon toute probabilité, vous ne me reverrez pas non plus, riposta Chéribim. Et pourtant, je vous ai fait l'honneur de me présenter à vous de pied en cap.
Qu'importe, vous avez entendu la proposition qu'on vous fait de la fête tout à l'heure.
L'homme, allez, commencez-vous. Je pense que c'est une proposition de fou, dit le gangster avec mépris.
Le prince se mit à rire.
Eh bien, nous ne discutons pas. Allez, Nicolas, donne-lui la somme promise.
Nicolas tira de sa poche une liasse de billets de banque que M. Bim fit disparaître dans la sienne, mettant en pratique son dicton favori « L'argent n'a pas d'odeur ».
« Maintenant, mes amis, je reste à votre disposition. Souvenez-vous qu'il n'y a pas dans New York un homme plus fin, plus habile et plus expérimenté que votre serviteur. Et le jour où vous me proposerez un travail digne de moi, avec un bon dividende en retour, vous verrez comment je m'en tire. En attendant, continua-t-il aimablement, j'offre une tournée. Appelez le garçon et commandez-lui ce qu'il y a de meilleur en fait de rafraîchissement.
Attendez, dit Serganov. Tous les yeux étaient de nouveau tournés vers la porte qui s'ouvrit doucement sous la pression d'une main légère. Il y eut une exclamation étouffée dans la salle quand les conjurés virent entrer Irène Yaroslav. À en juger par sa coiffure, le grand manteau de fourrure qu'elle portait devait dissimuler une toilette de soirée. Sans voir l'homme masqué dont un large chapeau abritait la figure, elle demanda
« Où est Israël Kensky ?»«
Ah, il n'est pas là !» dit Serganov. Elle fit deux pas en avant et, joignant les mains,
« Que signifie cela ? Pourquoi êtes-vous ici, sœur ?»«
Chut, pas de nom propre, Irène !» Il craignait que, parmi ces hommes, quelques-uns eussent de graves raisons de le haïr.
« Mais que faites-vous ici ? » répéta-t-elle. « Où est Israël Kensky ?»«
Il n'est pas venu, vous dis-je. » Et comme la grande duchesse se retournait pour sortir, il la précéda et s'adossa contre la porte.
« Quelle insolence ! » s'écria-t-elle avec hauteur. « J'ai reçu une lettre d'Israël Kensky me disant de venir le rejoindre dans cette maison pour apprendre la vérité sur le complot dirigé contre mon père. »
Le prince, dont les mains tremblaient, se mit à rire avec ironie.
« Laissez-moi l'auteur de cette lettre, Irène. Je désirais particulièrement vous voir ici, ce soir. »«
Vous le paierez, » dit-elle.
Elle essaya de le repousser, mais il la saisit et la maintint de force. Alors, tournant un visage enflammé vers les hommes,
« Êtes-vous donc des lâches pour laisser brutaliser une femme sous vos yeux ? Ce monstre a trahi mon père et vous trahira à votre tour. »
Elle s'exprimait en russe, mais personne ne bougea.
« Parlez anglais, miss !» dit quelqu'un.
Elle jeta un regard reconnaissant vers le drôle d'individu coiffé d'un chapeau melon qui lui donnait ce conseil et dont le sourire jovial l'encouragea.
« J'ai été attirée dans ce guet-apens par une ruse infâme !» expliqua-t-elle haletante. « Aidez-moi à en sortir, je vous en prie. Vous êtes anglais, n'est-ce pas ?»«
Américain, miss !» et tout près de votre chevalier servant.
Arrêtez, dit brutalement Serganov, en braquant son revolver sur Chéribine, qui leva immédiatement les mains.
Ne vous mêlez pas de cette affaire. Vous aurez encore de quoi vous occuper avant la fin de la soirée. Irène, suivez-moi.
Il entraîna vers une petite porte percée dans le mur que l'on aurait prise pour un placard, mais qui servait en réalité
de sortie de secours en cas de danger. Le prince, à qui on en avait donné la clé, se hâta de l'ouvrir, puis saisit de nouveau le poignet d'Iren Iroslav sans cesser de diriger son revolver sur Magbin.
« Au secours !»
cria la grande duchesse, se voyant perdue.
« Cet homme est Selganov, le chef de la police à Saint-Pétersbourg. »
Il y eut un grand fracas, des pas précipités, et une voix cria dans le couloir extérieur. « La police !» Déjà la porte dérobée s'était refermée sur eux. Ils traversèrent une petite cave encombrée de barils, montèrent quelques marches et débouchèrent dans une chambre assez exiguë qui devait servir de cabinet particulier. Serganov y poussa la jeune fille devant lui. Cette pièce se trouvait de plein pied avec un restaurant, puisqu'on entendait le cliquetis des fourchettes. À travers la cloison, mais les volets étant clos, il était impossible de savoir si elle donnait sur la façade de Silver Lion ou sur la rue de Traverse. Le prince donna tranquillement deux tours de clé à la porte, puis se tourna vers sa cousine et arracha son masque.
« J'étais sûr que vous me reconnaîtriez, » dit-il froidement.
« Allez-vous continuer à m'outrager, colonel ? Ah, encore une fois, vous me paierez cela. »
« Calmez-vous, Irène. Il y aura en effet bien des comptes à régler entre nous. Reconnaissez au moins que je viens de vous sauver du déshonneur, car au moment où je vous ai fait sortir de la salle, la police y arrivait pour opérer une rafle.
Mais sans vous, je n'aurais pas été dans cette salle, mon père.
C'est justement de votre père que je voulais vous parler. »
« Écoutez-moi, Irène.
Je suis le seul héritier du grand-duc, et en dehors de quelques propriétés qui vous sont déjà destinées, vous n'aurez rien. Mon affection pour vous est connue et approuvée à la cour et... »«
Votre affection ?» interrompit-elle avec amertume. « J'aimerais mieux avoir celle d'un loup. »
« La ressemblance est peut-être plus grande que vous ne le pouvez, que vous ne pensez, » riposta Serganov avec un sourire ambigu. « Savez-vous ce qu'on apprendra demain ? La police a fait une rafle dans un club et parmi les anarchistes occupés à conspirer contre la monarchie se trouvait la grande duchesse Irène Yaroslav. »
Irène, comprenant le retentissement qu'aurait pareil scandale s'il était livré au public, et sachant que son père n'était déjà pas très bien vu à la cour, fut épouvantée des conséquences de son acte.
« Mais c'est par trahison que j'ai été amenée dans ce club, » dit-elle avec fermeté, « et la lettre que j'ai reçue... « Signé Israël Kensky.
Mais je vous ai déjà dit qu'elle était de moi.
C'est vous aussi sans doute qui aviez organisé la descente de police ?»«
En effet, dans des conditions particulièrement heureuses, » ajouta-t-il avec cynisme. « Le gentleman qui vous a offert d'être votre chevalier servant est un redoutable gangster de New York, recherché par la police, et j'espère coiffé en ce moment. On l'a attiré dans cette réunion pour lui offrir de tuer le tsar moyennant une grosse somme. »
Irène poussa un gémissement.
« Vous voyez, ma petite cousine, que les choses iront mal pour la famille Yaroslav quand ce bandit fera sa déposition au tribunal. »
« Mais alors que me proposez-vous ? » ?»«
Il y a deux solutions. La première est que je vous remette entre les mains des policemen, et la seconde que vous vous engagiez solennellement à m'épouser. Et dans ce cas, je vous fais immédiatement sortir d'ici. »
Elle réfléchit un moment.
Y a-t-il une troisième hypothèse ?
Serganov secoua la tête. Jellybean, en chaussettes, était en train de monter l'escalier avec des précautions de Sioux. Avant que les agents eussent envahi la salle, il avait fait sauter un plomb et, profitant de l'obscurité, s'était glissé à la suite des deux fugitifs. Arrivé sur le palier, il entendit la voix de Sergonov et s'arrêta pour en écouter. Puis, tirant doucement de sa poche une pince, il saisit le bout de la clé qui dépassait un peu la serrure et tourna lentement. Ensuite, son colt au poing, il attendit. « Maintenant, Irène, disait le prince, il faut vous décider. » Les policemen vont fouiller la maison de fond en comble et ils peuvent être là d'une minute à l'autre. Je puis leur dire, soit que vous êtes venu pour assister à une rafle, soit que je vous ai arrêté au moment où vous alliez vous enfuir. Que choisissez-vous ? Irène ne répondit rien. Elle manœuvrait de façon à s'emparer du revolver que son cousin avait posé sur la table. Mais, devinant son intention, il s'élança, la prit par la taille et la rejeta en arrière. « Oh, il me sera plus utile qu'à vous, belle cousine !»«
Je te crois !» dit une voix gouailleuse derrière lui.
Serganov se retourna comme un chat et tira. La riposte du bandit fut si prompte que la jeune fille horrifiée n'entendit qu'une détonation. Elle vit Cherubin porter la main à sa joue dont le sang coulait et le mur troué par la balle à la hauteur de sa tête. Serganov poussa une sorte de grognement et s'affaissa sur la table. Sans regarder davantage, elle obéit au geste impératif du petit homme qui lui désignait l'escalier.
« En bas, vous avez une sortie sur le mur. » « Sauvez-vous, Miss, autrement les Bulls vous auront. »
Irène ne demanda pas d'explication et vola plutôt qu'elle ne descendit. Ses mains tremblantes poussèrent le verrou de la porte et elle se trouva dans la rue. Seuls deux hommes y faisaient les 100 pas. L'un d'eux vint à elle, les bras ouverts.
« C'est vous, Dieu soit loué !» « Oh, j'ai eu si peur !»«
Vous n'étiez pas avec ces gredins, n'est-ce pas ?» L'émotion de Malcolm le rendait incohérent, et sa question fit sourire le détective, qui savait que cette porte donnait accès à un cabinet particulier.
« Emmenez-moi » dit-elle, défaillante.
Malcolm l'entoura de son bras pour la soutenir, et à l'encontre de ce qu'il redoutait, le policier ne les ayant pu retenir, ils arrêtèrent un taxi.
« Donnez l'adresse d'Israël Kensky !»
murmura la grande-duchesse en tombant sur les coussins de la voiture.
« Je ne puis rentrer à l'hôtel dans l'état où je suis. »
Lorsqu'il eut transmis les instructions au chauffeur et fut monté auprès d'elle,
« Je vous suis reconnaissante de ce que vous faites, Master High, » dit-elle avec douceur et couvrant son visage de ses mains. « C'était affreux, affreux !»«
Et que s'est-il passé ?» Irène secoua la tête et brusquement reprit.
« Il vaut mieux que je rentre décidément, car à cette heure-ci, j'ai des chances de regagner mon appartement sans être vu par Boulba. » Vous voudrez bien aller chez Israël à ma place et lui raconter. »
Docilement, il se pencha à la portière et prévint le chauffeur du changement de destination. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôtel, la plupart des clients étaient encore à la salle à manger ou déjà au théâtre. Et cependant, Malcolm, inquiet, dit à sa compagne : Puis-je vraiment vous laisser ainsi ? Elle sourit en dépit de sa détresse.
« Écoutez,
Ma chambre donne sur cette façade. Si j'y arrive sans encombre, j'agiterai mon mouchoir avant de fermer les persiennes.
Malcolm attendit anxieusement dans la rue jusqu'à ce qu'il eût vu trois fenêtres s'éclairer et la silhouette d'Ilan Yaroslav se pencher pour faire le signal convenu. Alors il remonta en taxi et se fit conduire à Maida Valley en se disant que les romans ne sont pas toujours des fictions. À sa surprise, il trouva le juif déjà au courant de ce qui s'était passé au Silver Lion.
« Est-elle en lieu sûr? Est-elle en lieu sûr ? » répétait-il d'une voix tremblante. « Béni soit Jéhovah ! Oh, je craignais quelque malheur. Son Altesse m'avait écrit cet après-midi. La lettre a été interceptée et ils lui ont tendu un piège là-bas. Oh, les démons !» « Heureusement, ajouta-t-il en tisonnant son feu, il y en a un qui ne nous ennuiera plus. »«
Lequel ?»«
Selganov, répondit le vieux bonhomme avec satisfaction. « Quand la police l'a découvert, il était mort. »«
Et l'Américain ?»«
On n'arrête que des Russes. »« Celui-là, nous le reverrons sans doute jamais. »